Journal de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, des petits salaires qui augmentent et des gros milliards investis en France. Les salaires, c'est ceux des travailleurs de l'hôtellerie-restauration, accord sans doute validé cette nuit. Les milliards viennent de grandes entreprises étrangères, 21 projets pour 10 000 emplois à la clé, annonce l'Élysée. Et les électeurs dans tout ça, ceux qui ont toujours voté à gauche et qui ont le choix entre 8 candidats cette année. Parole d'électeurs déboussolés, on va les entendre dans le fief socialiste de Sainte-Gabrielle. Des contaminations en baisse sur une semaine, que faut-il en déduire? Quand est-ce qu'on sera tranquille? Faudra-t-il une quatrième dose? Encore beaucoup de questions.
Oh
Covid
oui.
Pour votre invité ce matin, Nicolas.
L'épidémiologiste, membre du conseil scientifique, le professeur Arnaud Fontanet, à notre micro dans 20 bonnes minutes avec Léa Salamé. Amis auditeurs, appelez-nous, vous êtes nombreux au standard déjà. 01 45 24 7000.
Dans ce journal aussi, un tueur au profil inquiétant devant les assises du Gare. Navalny, emprisonné depuis un an en Russie, le principal opposant à Vladimir Poutine n'est pas prêt de sortir. Et puis russe aussi, la nouvelle enseigne de Hard Discount, Méré, qui va s'implanter dans quelques jours en France, à Thionville. Les prix seront très bas et la qualité sans doute aussi.
France Inter.
Plus d'un million de salariés concernés, plus tous ceux que l'hôtellerie-restauration veut attirer, secteur en manque de bras comme jamais. D'où les propositions du patronat, d'accord pour augmenter les salaires. Les syndicats ont jusqu'à minuit pour se prononcer sur l'accord conclu avec la seule CFDT, ce qui devrait suffire à faire passer ce premier volet de négociation, Philippe Lefebvre.
La CFDT a d'ores et déjà signé cet accord, ce qui n'est pas le cas de la CGT et de Force ouvrière, qui ne devraient toutefois pas s'opposer à la validation du texte. Un accord donc qui se traduira par deux niveaux d'augmentation. Tout d'abord, une rémunération minimum supérieure à 5% du SMIC, ce qui devrait représenter un peu plus de 1000 euros de plus par an sur les fiches de paie des nouveaux embauchés, et une augmentation moyenne de 16,33% pour l'ensemble de la grille salariale dans la restauration. Et du côté des organisations patronales, on estime que cet accord pourrait entrer en application en avril prochain. Mais du côté des syndicats, on explique que les discussions ne vont pas s'arrêter là. Elles devraient en effet reprendre le mois prochain sur des sujets sensibles et qui sont à l'origine des difficultés de recrutement dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Le travail de nuit ou du week-end, les coupures entre les services et surtout la question du 13e mois, dont pour le moment l'Union des métiers de l'hôtellerie, syndicat patronal majoritaire, ne veut pas entendre parler.
16% d'augmentation en moyenne. Et on ne parle donc pas encore des conditions de travail. Les patrons de l'hôtellerie-restauration comme Michel Bédu de l'UMI Meurthe-et-Moselle espèrent que le coup de pouce suffira à ramener les jeunes travailleurs dans leurs établissements.
Le Covid a révélé peut-être d'une façon plus forte ce problème qu'on avait dans cette profession. On a toujours été un peu déficitaire au niveau de salariés. Et là, avec le Covid, c'est une catastrophe. Il faut absolument attirer les jeunes. Donc on ne les attirera pas non plus qu'en parlant. Il faut aussi savoir leur donner les salaires qu'ils méritent, quoi, tout simplement. Bien sûr, il y a beaucoup de jeunes qui manquent. Les centres de formation, on voit bien, ils sont tous en baisse de 15 à 20%. C'est bien des jeunes qui ne sont plus là pour l'instant. On a les entreprises pour les accueillir, on n'a pas les jeunes pour les mettre dedans.
Voilà, Michel Bédu de l'UMI, Meurthe-et-Moselle, avec France Bleu Lorraine. Et comment attirer les milliards des entreprises étrangères en France? Autre question, chaque année, Emmanuel Macron dévoile sa moisson d'investissement comme la preuve de l'efficacité de sa politique économique. La nuit dernière, l'Élysée a donc dévoilé 21 nouveaux projets. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Il y en a pour 4 milliards d'euros d'investissement dans des secteurs très divers.
Oui, le plus gros investissement est américain. Il s'agit d'une usine de recyclage de plastique du groupe Eastman, montant de l'investissement 850 millions d'euros, auxquels s'ajoutent d'autres projets, toujours dans le domaine de l'économie circulaire, comme ceux du Suédois IKEA, qui annonce 650 millions d'euros dans les 3 prochaines années. Il y a aussi des annonces dans le domaine de la santé. Pfizer, qui s'engage dans de nouveaux projets de sous-traitance pour la fabrication de son vaccin anti-Covid, 520 millions d'euros, ou encore GSK, qui compte injecter 118 millions sur 3 sites en France. Au total, ce sont plusieurs milliers d'emplois qui sont dans la balance. 10 000 avance l'Élysée, alors que les 4 éditions précédentes en avaient rapporté 13 300. Emmanuel Macron ne manquera pas de saluer la nouvelle aujourd'hui lors d'un déplacement dans le Haut-Rhin, où le chimiste allemand BASF annonce 300 millions d'euros investis dans la fabrication de nylon. Autant d'annonces bienvenues pour l'exécutif qui dépêche aujourd'hui pas moins de 6 ministres pour vanter l'attractivité de la France en région à 3 mois de l'élection présidentielle.
Fabien Cazot, merci. Et si Emmanuel Macron peut mettre son bilan en avant, quels sont les atouts de la gauche dans cette campagne présidentielle? Pas l'unité, en tout cas, on l'a encore vu ce week-end avec la candidature de Christiane Taubira. On en est donc à 8 candidats, de la social-démocratie à l'extrême-gauche en passant par les Verts. De quoi déboussoler jusqu'aux électeurs historiques de la gauche. Soizic Pelet l'a constaté dans un des bastions socialistes, le village de Sainte-Gabelle, en Haute-Garonne. C'était le fief de Lionel Jospin.
Pourtant, le message est plutôt clair au départ.
Je suis une électrice de gauche.
On a toujours voté à gauche, oui.
Mais quand il s'agit de répondre à la question « Pour qui allez-vous voter ?», ça se complique.
Pour l'instant, non, je ne sais pas.
Le moment fatidique, je prends le temps, en fait, de vraiment aller chercher ce qui me va plus le correspondre. Mais il y a une part qui est un peu distante, qui est de dire « Bon, on va voir ce qui se passe. J'y crois pas trop non plus. »
C'est-à-dire qu'en ce moment, on ne sait pas trop de quel côté aller. Complètement perdu, oui. Et je crois qu'on est beaucoup comme ça.
Personne ne réussit à incarner vraiment la gauche en ce moment, estime Jean-Paul.
Je ne vois personne prendre la tête de quelque chose et je ne vois pas. Comme du temps de Mitterrand, c'est un homme, quelle que soit sa façon d'être, qui avait du charisme, qui se faisait respecter. Et c'était beaucoup mieux. On avait un peu plus de visibilité, quoi.
La solution, selon lui, partagée aussi par Michel, ce serait celle d'une candidature unique, beaucoup plus lisible en tant qu'électeur et surtout beaucoup plus efficace.
On serait beaucoup plus fort si on était unis et si tous les partis de gauche arrêtaient leur petite querelle à 2 francs 6 sous et s'il y avait une vraie union. Moi, mes parents sont de l'Uruguay et en Uruguay, la gauche a gagné parce qu'elle s'est unie avec Pepe Mujica. C'est un très bon exemple de ce que l'on peut faire lorsqu'on est unis. Je vois mal comment est-ce qu'on va pouvoir contrecarrer cette droite en étant aussi divisé.
Ce qu'elle craint, c'est un retour du duel Macron-Le Pen au soir du premier tour.
Un reportage à Sainte Gabelle, signé Soizic Pelet. Est-ce la décrue qui commence? Moins de 300 000 contaminations quotidiennes ces 7 derniers jours contre 313 000 en moyenne la semaine précédente. Les admissions en réanimation sont aussi en baisse, mais pas les hospitalisations.
Et c'est dans ce contexte, Florence, il est 8h07, que le pass vaccinal a fini par être adopté définitivement au Parlement hier.
Quand il entrera en vigueur, le vaccin sera exigé partout où le pass sanitaire l'est en ce moment, y compris pour les sportifs en compétition, précise la ministre des sports, ce qui compromet la participation de Novak Djokovic à Roland-Garros au printemps s'il ne s'est pas fait vacciner d'ici là. En revanche, les 12-15 ans resteront soumis au pass sanitaire, ce qui veut dire qu'ils pourront toujours présenter un test négatif pour aller au cinéma ou prendre le TGV. Le gouvernement espère pouvoir l'appliquer, ce pass vaccinal, dès la fin de semaine, après l'examen du Conseil constitutionnel, saisi par des élus de l'opposition. Une formalité, estime le constitutionnaliste Jean-Philippe de Rosier.
Le Conseil constitutionnel l'appréciera, mais il a déjà eu à apprécier dans une autre décision il y a bien longtemps, avant même la crise sanitaire en 2015, le principe même de l'obligation vaccinale. Et il l'a jugé parfaitement conforme à la Constitution. Donc il n'y a pas de raison là, alors que l'on s'inscrit dans une crise sanitaire, que l'on sait que l'un des remèdes, c'est la vaccination, que le Conseil constitutionnel considère que ce serait contraire à la Constitution.
Jean-Philippe de Rosier, professeur de droit public à l'Université de Lille, interrogé sur France Info. Ils ont défilé le bras tendu samedi en marge de la manifestation des antipasses à Paris. 200 militants d'extrême droite faisant le salut nazi. Gérald Darmanin a demandé l'ouverture d'une enquête. Et ce pass vaccinal, faudra-t-il l'enrichir d'une 4e dose? Israël et le Danemark y sont déjà, mais le débat n'est pas tranché en France. Bonjour Véronique Julia.
Bonjour.
On estime chez nous que l'efficacité de la 4e dose n'est pas encore prouvée.
Oui, d'ailleurs, jeudi dernier, lors d'une conférence de presse qui réunissait plusieurs éminents spécialistes autour du Covid, la question de cette 4e dose a été posée et la réponse des infectiologues a été claire et unanime. On ne sait pas. Pour l'instant, on sait seulement que la 3e dose est efficace et indispensable face à Omicron pour éviter les formes graves. Mais combien de temps cette protection dure-t-elle? Quelles sont par ailleurs l'efficacité et la tolérance d'une 4e dose? On manque de données. Les autorités sanitaires vont surveiller de près, évidemment, les informations venues d'Israël, qui a été le premier à administrer cette 4e dose. En attendant, on ne bouge pas. On sait aussi que dans la protection conférée par le vaccin, il n'y a pas que les anticorps, il y a aussi l'autre ligne de défense, ce qu'on appelle l'immunité cellulaire, qui peut jouer un rôle, mais ce rôle n'est pas encore clairement défini.
Et pourtant, cette 4e dose, Véronique, certains y ont déjà droit.
En France, dans les faits, on donne déjà des doses supplémentaires aux immunodéprimés sévères, ceux qui ne réagissent pas au vaccin. Ils en sont déjà pour certains à leur quatrième, voire cinquième dose. Pour les plus âgés, dont certains ont reçu leur troisième dose au mois de septembre, la question va très vite se poser. Autre question, faut-il, si on fait une quatrième dose, l'adapter aux nouveaux variants qui circulent ? Ces vaccins spécifiques ne sont pas encore disponibles, mais les laboratoires y travaillent. Pfizer promet le sien contre Omicron au mois de mars. Le patron de Moderna a récemment déclaré pour sa part qu'il serait surpris de voir les effets de la troisième dose se maintenir dans le temps et qu'il faudra sans doute se préparer à une campagne de quatrième dose pour tous à l'automne prochain, voire à des rappels réguliers tous les ans.
Véronique Julia, spécialiste santé à France Inter, rebelote jeudi. Le SNES, principal syndicat des collèges et lycées, appelle de nouveau à la grève. La question du report des épreuves de spécialité du bac en tête des revendications. Deux rendez-vous avec la justice pour Éric Zemmour cette semaine. Jugement attendu aujourd'hui après ses propos sur les mineurs étrangers qualifiés de voleurs, d'assassins et de violeurs. Le parquet avait requis 10 000 euros d'amende. Et puis jeudi, procès en appel pour contestation de crimes contre l'humanité. Pour sa théorie sur les Juifs de France sauvés par Pétain, il avait été relaxé en première instance. Et puis aux assises du Gard, aujourd'hui, c'est un meurtre qui sera jugé. L'accusé est un jeune homme au profil très inquiétant, poursuivi pour avoir tué une autostoppeuse en 2018 à Sommières. Il avait avoué, Jean-Philippe Degnaud, en expliquant qu'il voulait savoir ce que ça faisait de tuer.
Les policiers de Montélimar se souviendront certainement longtemps du jour où ce jeune homme de 22 ans a poussé la porte du commissariat pour avouer son crime. Il leur raconte avoir passé la soirée avec une autostoppeuse et qu'au terme d'une balade dans la campagne, il a subitement eu envie de la tuer 17 coups de couteau. Il explique sans affect qu'il avait des envies de meurtre depuis plusieurs années, qu'il avait une dague dans sa voiture au cas où l'occasion se présente, qu'il voulait connaître les sensations que procure un tel crime. Et il ajoute même spontanément qu'il n'a finalement ressenti aucun plaisir, que ce n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Dans leur rapport, les experts décrivent un être dénué de toute pathologie, sans remords, sans prise de conscience, juste fasciné par le crime. Avoir osé cet acte est plus important que le destin qu'il a infligé à la victime et sa famille, décrit l'un d'entre eux, évoquant une dynamique de tueur en série. Tous concluent au risque de récidive et à la nécessité d'une prise en charge psychiatrique au long cours.
Jean-Philippe Degnaud, en Corée du Nord, en est au quatrième tir en moins de 15 jours. Sans doute un missile balistique envoyé en mer du Japon. Rien ne semble arrêter le régime qui veut développer ses capacités militaires et qui dispose d'armes nucléaires. Et puis chez le voisin chinois, on n'a plus fait aussi peu d'enfants depuis 1978. Taux de natalité historiquement bas et vieillissement accéléré de la population, alors que les couples, depuis l'an dernier, sont autorisés à faire 3 enfants.
Il est 8h12 en Russie, Florence, cela fait un an qu'Alexeï Navalny est sous les verrous.
Arrêté en rentrant dans son pays alors qu'il venait de se remettre d'une tentative d'empoisonnement, puis condamné à 3 ans de prison ferme. Mais sa sortie pourrait être beaucoup plus tardive. Sylvain Tronchet, les autorités n'ont pas l'intention de le remettre en liberté.
Théoriquement, Alexeï Navalny est libérable dans le courant de l'année 2023 pour la peine qu'il purge actuellement. Cela voudrait dire qu'il pourrait être libre pour la prochaine présidentielle de 2024. Mais rien n'est moins sûr. Le parquet russe a depuis lancé 6 procédures contre lui, allant du blanchiment d'argent au financement d'activités terroristes, en passant par l'incitation de mineurs à pratiquer des activités dangereuses. Alexeï Navalny encourt jusqu'à 10 ans de prison. Ses proches font également l'objet de poursuites. FBK, sa fondation anticorruption, a été classé organisation extrémiste et dans une application rétroactive de la loi, la justice russe poursuit ses anciens membres, même s'ils y étaient à l'époque où elle était légale. C'est le cas de l'ancienne coordinatrice de FBK à Oufa, à 1500 km à l'est de Moscou. Bien qu'elle soit enceinte, Natalia Zviagina a été incarcérée pour avoir appartenu à la fondation. Ces derniers mois, la plupart des anciens soutiens de Navalny ont décidé de quitter le pays et il ne reste en Russie plus rien de son organisation. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Et à l'Est, il y aura bien du nouveau venu de Russie, justement. La chaîne de Hard Discount Méré ouvrira dans quelques jours son tout premier magasin en France, à Thionville. Du discount à l'ancienne, Agnès Soubiran, les Français n'y sont sans doute plus habitués.
Un nombre limité de références, 800 contre 15 000 dans les hyper classiques, peu de salariés mais appelés à tout faire, des cartons entassés sur des palettes en guise de présentation et des coûts de transport optimisés au niveau européen, Méré s'apprête à reprendre le créneau laissé vacant par la montée en gamme des Lidl et Aldi, mais attention à la qualité des produits, met en garde Yves Puget du magazine LSA.
Ce sont les étiquettes qu'il faudra regarder parce que peut-être que vous allez comparer un produit qui a du beurre et un autre qui a de la margarine, donc forcément celui qui a de la margarine est moins cher.
Et justement pour Michel Biérot, directeur exécutif de Lidl, les consommateurs français sont aujourd'hui très attachés au rapport qualité-prix.
Ils viennent avec du hard discount de base, c'est-à-dire avec a priori des poulets à 1 euro, des paquets de snacks qui font 2,5 kg ou 3 kg. Et je pense que c'est pas vraiment ce que cherche le consommateur français aujourd'hui.
Et dans cette bataille pour conquérir ou garder des parts de marché, la grande distribution s'adapte, Gaëlle Le Floch du cabinet d'études Kantar.
Vous avez aussi des enseignes en face hein, qui dégainent très rapidement. Donc vous avez tous ces systèmes d'abonnement qui ont été mis en place par Casino, par Carrefour, par Monoprix, hein, qui permettent à leurs clients de bénéficier de réductions tout au long de l'année.
En s'implantant très discrètement dans l'est de la France, le hard discounter russe tente ainsi une première approche. À confirmer.
Voilà, Méret dans quelques jours à Thionville, avant Pont-Sainte-Marie dans l'Aube et Sainte-Marguerite dans les Vosges. Enfin, c'est leur première défaite en 35 matchs. Les Algériens, tenants du titre, ont perdu contre la Guinée équatoriale hier soir en deuxième journée de Coupe d'Afrique des Nations. Ils joueront leur avenir jeudi face à la Côte d'Ivoire.
Merci Florence Paracuello, c'est la météo avec Marie-Pierre Planchon.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Marie-Pierre, attention au brouillard.
Et oui Nicolas, avec les hautes pressions, ces brouillards recouvrent à peu près les trois quarts du pays. Ils sont parfois givrants, comme dans le sud-ouest. Prudence aussi dans le nord-est de la Bourgogne au Bas-Rhin, car on a également quelques pluies verglaçantes, aussi de la pluie et neige mêlée vers la Lorraine, sans oublier quelques bruines qui tombent sur le centre. Est. En revanche, vous pourrez voir le soleil se lever en allant vers les Pyrénées, jusqu'au Limousin, aux Alpes, à la Méditerranée, sous un vent déjà sensible jusqu'en Corse et sous un mercure assez contrasté. Au plus bas, on relève moins 8 à Vinon, du Verdon dans le Var, moins 5 à Brive, alors qu'on relève 10 au Cap Pertusato en Corse. Vous vous réveillez avec moins 4 à Sainte-Gabelle, moins 3 à Lyon et Mont-de-Marsan, moins 2 à Marignane, un petit degré à Mulhouse, 2 Calvi à Lille, 6 à Paris et 7 à Brest.
Et quelques éclaircies en plus cet après-midi.
Oui, quand même sur les côtes de la Manche et à l'intérieur des terre, sur le Limousin aussi et sur le sud du Jura. Mais comme ce matin, la moitié nord et dans la vallée de la Garonne, la grisaille sera tenace. Et comme ce matin, ce sera aussi un lundi au soleil des Pyrénées aux Alpes à la Méditerranée sous la Tramontane et le Mistral, mais pas en Corse. On va gagner 1 à 3 degrés. Il fera 2 à Saint-Étienne, 4 à Auxerre, 5 à Lyon, Agen ou Strasbourg. Comptez 7 à Paris, 8 à Paris, 7 à Lille, 8 à Paris, à Pau ou Dunkerque. Vous aurez 9 à Tarascon, 10 à Brive. Il fera 13 à Bastia, 14 à Nice et Perpignan.
Marie-Pierre Planchon, merci.